À tous, un excellent lundi. À quelle date? On est déjà le 19 août.
Déjà.
On est sur le 102.1. Boulevard BLVD 102.1. Merci d'être là. Son nom, elle, c'est Audrey Pinchot.
Enchantée.
Mon nom, c'est Marceau, comme le monsieur à la grosse voix aime bien le mentionner. Puis c'est un plaisir d'être avec vous à chaque jour du lundi jusqu'au vendredi dans cette nouvelle émission qui s'appelle l'Open Mic. Ça s'appelle de même pourquoi, déjà? Hein?
Ouf, tu veux-tu vraiment te lancer là-dedans? Ça s'appelle comme ça pour plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'était de trouver une identité à ce qu'on voulait faire parce que toi, t'es là de 10 à 2.
Oui.
Mais t'as deux femmes pour te gérer, puis on se tape dans la main à relais pour être capable de prendre soin de toi.
Il y a beaucoup de gars qui m'ont dit « t'es chanceux ».
Ah,
mais
ben
ces
là,
gars-là ne l'ont jamais vécu.
Mais moi, je suis d'accord avec eux. T'es très chanceux. T'as deux filles qui s'occupent de ton horaire, qui te mettent du papier ce que t'as besoin. Yann, t'es-tu correct? T'as-tu besoin d'autre chose? T'es un roi, mon cher.
Quand tu regardes ça, c'est complètement capoté. Deux filles dans deux shows différents qui s'occupent de moi. Après ça, ma patronne immédiate, Véro. T'es une fille?
Oui.
La mère de mes enfants.
Je
présume que c'est une fille. Ma conjointe, c'est une fille. Fait que ça fait 5 femmes qui gèrent ma vie.
Au quotidien.
Oui.
Mais c'est fantastique.
Je vais pas mieux. J'ai besoin de vacances.
Et pourtant, imagine nous autres.
Ouais.
Non, ça s'appelle Open Mic parce que c'est un show où on veut vous donner le micro, tout simplement. Il y a des gens qu'on veut recevoir dans les prochains mois qui sont des auditeurs, qui ont des histoires, qui pratiquent peut-être un métier qui sort de l'ordinaire. C'est un show qui vous appartient carrément, qui a une twist peut-être un peu plus humaine. J'allais dire comparé à ce que vous faites sur l'heure du midi, c'est plus dans le sens que sur l'heure du dîner, vous êtes plus affaires publiques. On traite de l'actualité comme on fait un peu dans le reste de la programmation. Ça, c'est comme 1h30 pour tisser un lien davantage avec vous autres. C'est vraiment ça le principe. D'ailleurs, vous voulez être avec nous, ben, il y a le Twitch, twitch.tv, BLVD, barre en dessous FM, qui est toujours allumé. Belle communauté de ce côté-là, d'ailleurs. Puis le 88-971-1021 texto, vous n'hésitez jamais.
Yes, exactement. Bon.
C'est un beau résumé, hein? J'ai fait mes devoirs.
T'es très bonne. C'est 18 degrés sur Québec. Ça où les gens qui trouvaient que le soleil était beaucoup trop présent la semaine passée, qu'il y avait trop de lumière, que c'était trop chaud?
Faut que je te dise de quoi, par exemple.
Aujourd'hui, c'est noir comme dans le pétu du job.
Oui, comme dans le derrière d'un ours, comme on dirait par chez nous. Mais ça fait du bien, je trouve, de mettre des vêtements un peu plus... J'étais contente de sortir une petite laine ce matin, puis de sortir mes bottillons. Moi, j'aime l'automne, puis là, je la tire. Là. J'ai hâte qu'elle arrive. Là.
Ta saison préférée, c'est l'automne?
Ah, définitivement.
Même affaire.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Pourquoi?
À cause de la température.
C'est plus frais.
Tu sais, moi, je trippe sur la température californienne. Ouais. Pas quand il fait extrêmement chaud, mais admettons, autour de entre 18 puis 22 degrés.
Ouais.
Moi, j'adore ça comme pas possible. Mais quand c'est trop chaud, tu sais, un genre de 36 ressenti, là.
Moi, en fait.
T'as la rivière qui te court.
C'est ça, qui te
coule
dans
le long
là.
De ta colonne vertébrale qui s'en va directement dans la bouche du diable.
Le moment, moi, où tu prends ta douche le matin, puis quand tu rentres dans ton char, tu sues déjà du pinch.
Ouais, non.
Ça part pas bien ma journée. Je comprends pas les gens qui triplent là-dessus.
Mais il y en a qui s'habituent. Moi, la petite température californienne, j'ai bien aimé. Ce qui est hallucinant, quand tu prends la route 66, tu traverses les États-Unis d'un bord à l'autre, pratiquement. Là.
T'as fait ça en moto?
Je l'ai fait en moto. C'est que j'étais dans le désert. Audrey, il devait faire 40-45.
Mais c'est sec.
Puis là, je regardais ma map, parce que dans le temps, c'était une map papier, j'avais pas mon GPS. C'était en 2006, je pense, 2006-2007. Fait que je regardais ma map papier. Puis là, j'étais capable de calculer le nombre d'heures avant d'arriver à Los Angeles, à la fameuse plage de Baywatch,
ouais.
Où Pamela Anderson allait être. T'sais. Finalement, quand je suis arrivé je regardais la plage, puis je me suis dit, c'est clairement pas là qu'ils ont filmé Baywatch. Là.
T'as pas spoté le maillon rouge, non?
Non, mais quand t'arrives à Los Angeles, la place où tu crois qu'ils ont filmé la série Baywatch, c'est vraiment pas là. Eux, ils l'ont filmé comme beaucoup plus loin, où il y avait moins de monde, où c'était peut-être un peu plus beau. Et moi, c'était la déception. Là.
Mais non, mais c'est sûr.
Je m'attendais à voir des Pamela Anderson courir en costume rouge. Mais bref, tout ça pour faire ton lien avec la température, c'est que j'étais dans le désert à 45-50 degrés à moto. Puis quand je suis arrivé à Los Angeles, il faisait 14-15.
Oh, OK, c'est un drop, là.
Je pense que c'était au mois de juin, de mémoire. Ouais, c'est ça. Au mois de juin, 18, 19, 20 juin à peu près, là. Écoute, j'avais épine dure comme pas possible, puis je gelais.
Mais surtout en moto.
Vraiment.
Crime, moto, faut que tu t'habilles même l'été, là. Ça devient frais.
Il y en a qui s'habillent beaucoup, avec raison. C'est plus sécuritaire, là.
Ouais.
Tu veux pas te ramasser à l'unité des grands brûlés si tu te bêches. Mais,
t'es-tu bien équipé quand tu fais de la moto? Pour vrai?
Entre les deux saisons, oui. Je te dirais que quand c'est l'automne, je suis très, très bien équipé. Quand c'est le printemps, je suis très, très bien équipé. Puis quand il fait, comme on parlait tantôt, un genre de 36 comme température ressentie, je garde mes jeans, mais je suis souvent t-shirt.
C'est-tu les jeans doublés là, de...
Non.
Du Teflon, c'est quoi? Non, c'est pas...
Non, c'est des jeans
ben normal. Walmart, OK, non, mais ça, je te dis ça parce que cet été, j'ai vu la vidéo d'un gars qui a fait un accident près d'ici, puis il nous faisait un peu le décompte de ce qui s'était passé, puis de comment il était habillé, puis de ce qui se serait passé s'il n'avait pas été habillé. Puis lui, il était là, kit complet, là, de haut en bas, les bottes, les jeans doublés, justement, avec... Mm-hmm. C'est-tu ça, du Teflon? Peut-être que je dis n'importe quoi, là.
Ça se peut.
Mais il y a une substance dedans qui fait que c'est comme si c'était du cuir, là. Ça prend du temps avant que ça déchire, mettons. Là. Et il y avait le chandail, le manteau par-dessus, gros kit complet, puis il nous montrait après accident de quoi le kit avait l'air. Puis c'est assez surprenant comment, même bien équipé, il aurait pu pas s'en sortir.
Je comprends tout ça,
là.
Puis quand tu jases avec des gens qui travaillent à l'unité des grands brûlés, ils en voient tout le temps, des gens qui se sont plantés à moto. Puis, tu sais, c'est pas des légendes urbaines, là. C'est souvent des gens qui font de la moto sportive. Puis c'est pas juste parce que t'as une moto sportive. Il y a des gars qui ont des Harley Davidson qui vont faire de la moto sportive. Moi, je fais vraiment un type de moto qui est de loisir. C'est bien rare que vous allez me voir avec une dizaine de gars clencher ça au fond sur l'autoroute. Ça vous arrivera jamais de me voir comme ça. Je suis tout le temps tout seul dans des petites routes où il y a pratiquement pas d'êtres humains. Les équerres, moi, j'adore
ouais, mais ça.
Mais
ça dépend pas de toi seulement.
Les
hein,
équerres, t'sais. Mais tu comprendrais. T'sais, le jour où t'embarqueras derrière moi, là, puis t'auras le plaisir de me prendre par la taille... tu vas dire,
oui,
voyons,
ce jour
Yann,
va arriver.
Tu
oui,
vas
oui.
dire, voyons, Yann, la limite, c'est 70, t'es à 60, t'es à 55.
OK, tu roules un peu pépère, je comprends ce que tu veux dire.
Je suis vraiment pépère parce que pour moi, la moto, c'est une façon de me vider la tête. Puis des fois, oui, je vais sur l'autoroute puis je roule à 100 km/h, mais je ne mets jamais ma sécurité, ma vie en danger. Je reste tout le temps dans le petit couloir de sécurité que je peux avoir. Quand je suis dans les courbes, là, moi, je les vois, les gars, ils passent à côté de moi, ils sont en racer ou sont en Harley, ils décident de coucher leur moto, ben tu sais, quand on parle de l'unité des grands brûlés, là, c'est eux autres, ceux qui décident de coucher leur moto dans les courbes pour ressentir tout l'effet que ça peut donner.
Oui, mais il y a beaucoup d'accidents de moto qu'on a vu que c'était malheureusement une auto contre une moto, une affaire d'intersection
ça
de stop brûlé. Ouais. Moi, la seule peur que j'ai eue en moto, heureusement, parce que nous autres non plus, on ne fait pas bien d'autoroute, on aime pas mal plus la 138 ou les rangs ou les. Mais tu sais, nous, l'affaire qui nous est déjà arrivée, c'est de breaker en peur parce qu'une voiture qui avait mal fait son stop. Puis là, rendu là, tu te rends compte à quel point tu es vulnérable. Mettons, là, nous, c'est une semi-route, semi-trail. Là, fait que m'a dit qu'en arrière, moi, je suis pas toujours super confortable. Là. Je le sens, le tour dans mon arrière. Là, on est proche, le pimoin. Là. Fait que tu te rends compte à quel point ça vaut la peine de peut-être mettre une couche de plus. Moi, j'ai mon kit complet là, quand on part. Là. Et tu sais, j'ai pas de bas, je te dirais, appropriés. Là. Mais tu sais, j'ai toujours mes bottes, les petits gants, puis le manteau de cuirette qui appartenait à ma grand-mère. Fait que je trouve ça le fun. En plus, il y a comme un leg qui
ça serait
avec
du Kevlar.
C'est quoi je disais tantôt? Du Teflon?
Du Teflon.
Teflon? Bon, j'étais proche. Là.
Teflon, je pense
affaire,
que ça t'empêche de faire brûler tes affaires quand tu fais la cuisine. Hein?
Je suis plus sûre de ce que je dis. Je me retire, OK?
Ben, c'est ça, je fais de la moto de pépère. Mais pourquoi on en est rendu là? Ah, la météo. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais faire. Aujourd'hui, c'est pluvieux. Je pense que vous pouvez le constater. Là, on s'en va tranquillement, mais sûrement vers l'automne. C'est un 18 degrés avec... Il n'y a pas de d'humidité vraiment là, qui vont faire une différence là, dans la température. Donc, un genre de 18, c'est ce qu'on aura pour toute la journée. Ce soir, un minimum de 13 degrés. Des averses encore entre 10 et 20 mm. Demain, mardi, ce serait de la pluie. 5 mm annoncés, maximum de 15. Mercredi, nuageux avec des probabilités d'averses, maximum de 16. Jeudi, des averses, maximum de 17. Et le retour du soleil serait prévu pour vendredi, samedi et dimanche, on en croit Environnement Canada.
Il y a déjà quelques ralentissements à prévoir. Si vous êtes sur Laurentienne-Sud, vous allez chercher la capitale ouest dans la Bretelle. C'est au ralenti dans le coin de Val-Bélair, hauteur avenue industrielle. Puis sur la 20, direction ouest, entre autres du président Kennedy et Chemin des Îles, il y a déjà un petit ralentissement. Hey, j'ai essayé un nouveau resto. C'est toi qui es dans le coin de Val-Bélair, hein, je me trompe pas?
Oui, madame.
Denise, chez Denise, à Shannon. J'ai goûté à ça pour la première fois hier.
C'est-tu un resto ou c'est un casse-croûte?
Non, mais c'est comme un... Je vais te dire un resto casse-croûte, puis j'ai même le goût de te dire plus, parce que, tu sais, ils peuvent te donner de la bière sur place, vin et compagnie. Je n'étais jamais allée, parce que moi, quand j'habitais dans le coin de Shannon, le terrain où ils se sont installés à côté du DEP, il n'y avait rien. C'était vraiment un terrain comme carrément vide avec du sable, c'était lettre, là. Puis ben ça doit pas faire super longtemps que c'est ouvert parce que nous autres, on est partis il y a 2 ans, mettons, là. C'est deux frères de Shannon qui ont ouvert ça en l'honneur de leur maman qui s'appelle Denise. Puis c'est drôle parce que ça fait vraiment penser à chez Tiwi à Saint-Raymond. Puis je pense que leur but est un peu là, de créer quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui va devenir une identité à part entière. Puis c'est vraiment cute ce qu'ils ont fait pour vrai. Ça fait vraiment rétro.
C'est vraiment un beau spot.
Diner. Oh non, c'est vraiment le fun. Puis honnêtement, hier, j'ai mangé un genre de... Comment t'appelles ça? Ça ressemble à un petit matin, là, ou comme ils font chez McDo, là, mais avec du porc effiloché puis tout dedans, là, vraiment fancy. Fait que j'ai goûté à ça hier. J'ai passé une partie de fin de semaine à Québec. Ça a été quand même assez relax. Puis là, ben, je suis bien contente de te retrouver, là.
Bon. Hey, t'as-tu vu ce qui se passe dans une école d'Oka pour la prochaine rentrée scolaire?
Oui, les cellulaires.
On a carrément décidé d'interdire les cellulaires à l'école. Là, actuellement, c'est interdiction des cellulaires en classe. C'est ce que le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a fait passer comme loi, puis ça va être applicable. Je sais qu'il était supposé revenir là, cette année, là, ou dans les prochaines semaines, du moins, à savoir si ça va être sur le territoire de l'école, l'interdiction des appareils cellulaires. Mais au cas, on a décidé de se prendre en main, si on peut dire ça, et de munir tous les étudiants de pochettes verrouillées à aimant. Donc, tu vas arriver à l'école, tu vas devoir prendre ta pochette verrouillée, tu vas l'ouvrir, tu vas rentrer ton cellulaire, tu vas la verrouiller, puis elle sera déverrouillée juste à la sortie de l'école par un des 10 appareils qui est sur le territoire de l'école. Fait que tu vas sortir ton cellulaire tout de suite après les classes. Je trouve ça un peu drastique comme mesure, puis je me dis, est-ce qu'on en est rendu là maintenant dans le système scolaire, c'est-à-dire l'interdiction totale plutôt que de tenter que l'enfant se prenne en main, se responsabilise.
Mais moi, il y a plusieurs affaires là-dedans. D'un, il n'y a pas eu de projet pilote, il n'y a pas eu rien. On arrive avec ça, ça sort de nulle part. C'est effectivement très drastique. Tu parles d'Oka, mais je tiens à dire qu'à l'école secondaire de Rochebelle à Québec, on va le tester aussi.
La pochette?
La pochette ne sera pas là. Ce qu'on va demander, c'est de laisser le téléphone soit à la maison, soit dans les cases, mais il va y avoir surveillance pour que sur le territoire, justement, à l'intérieur de l'école, dans les corridors, tu n'aies pas droit à ton téléphone. Moi, dans les classes, je suis 100% d'accord.
Okay.
Parce que je pense que c'est effectivement une distraction à un certain point. On l'a facile, là. Je veux dire, moi, j'étais des premières à avoir un téléphone cellulaire, mettons, à l'école, puis on se textait, puis on portait pas toujours attention nécessairement à ce qui se passait en avant. Dans les corridors, dans l'école, je trouve ça franchement intense, pour vrai, là. Je trouve qu'en fait, ça peut presque empirer la situation à la maison. Parce que, tu sais, à la maison, comment tu veux gérer le temps d'écran de ton kid après ça, quand il n'a pas le droit de toucher à son cell la journée, puis il n'a pas pris ses messages, puis ses Snapchat avec ses amis, tu sais?
J'essaie de pas trop être bonhomme, malgré le fait que des fois, on sonne bonhomme parce qu'on est né sans cellulaire dans la main.
Ben
il
n'y
avait
oui,
pas
ça.
De technologie, nous autres, le téléphone, il était branché dans un mur à la maison, puis on était comme 3-4 membres de la famille qui devaient l'utiliser une fois de temps en temps.
Ça coupait Internet.
Des fois, on chicanait. Non, Internet n'existait pas non plus, Audrey.
C'est vrai, à un certain point. Non, mais il y a un moment où c'était ça. Ouais. Tu ne peux pas utiliser l'ordinateur si ta mère est ton téléphone.
Ouais, mais moi, je pense plus à Oka, où les professeurs sont tellement pas capables de faire respecter la loi dans leur école qu'ils disent, tiens, on va prendre cette mesure drastique-là. On va utiliser une technologie qui existe aux États-Unis à certains endroits. On va l'amener ici, puis les pochettes seront verrouillées, puis les enfants vont se promener avec leur cellulaire sur eux, mais dans la pochette verrouillée. Je trouve ça terrible qu'on en soit rendu là. C'est comme si les enseignants n'étaient plus capables de se faire respecter. C'est sûr que c'est une ancienne méthode, c'est peut-être la pire des méthodes, mais moi, quand je me faisais avertir 3 fois à l'école de cesser de déranger mes collègues de travail parce que je voulais faire mon drôle dans la classe, je me faisais crisser dehors de la classe. Puis après ça, ben, je faisais des copies à n'en plus finir. Jamais je ne referai rien, nanana, monsieur Jacques. Jamais je ne ferai rien, monsieur Jacques. C'était 100, 200, 300, 500, 1000.
Moi, j'écrivais, c'est ce que je faisais pour que dans ma tête, ça allait plus vite parce que chaque personne qui était capable d'aller en retenue avait sa technique. Moi, j'écrivais pas la phrase par phrase, ligne après ligne. J'écrivais, mettons, « je 100 fois ».« Suis 100 fois
». C'était une façon de faire.
Oh,
en même temps, tu
Dieu.
Voulais pas refaire des copies le lendemain. Fait que tu te calmais pour 2-3 jours. Je comprends pas pourquoi les professeurs sont incapables de se faire respecter. Puis en même temps, est-ce que les professeurs ont l'appui des parents?
Oh,
quand un professeur confisque le cellulaire, là, Est-ce que le parent va appeler le professeur pour dire « Toi, là, t'as pas le droit de faire ça, ça appartient à mon enfant, cette cellulaire-là. »
Ah, ben ça, pour moi, ça n'a pas lieu d'être.
Ça n'a pas lieu d'être, mais tu sais quoi? Ça se fait. Quand je parlais avec la mère de mes gars puis la professeure, elle nous a comme dit quelque chose, puis elle était comme pas sûre. Je dis, savez-vous quoi? Moi, j'ai confiance en votre jugement. Ça fait plusieurs années que vous faites ce métier-là. Quand vous êtes dans votre classe, c'est vous qui décidez.
Oui, oui.
Que vous ayez tort ou raison, c'est vous qui décidez, tant au son temps que ce soit dans le respect.
Ouais.
Puis mon gars, c'est vous qui doit écouter. Puis elle dit, on se fait tellement jamais dire ça.
Mais non, mais les profs, les parents, excuse-moi, viennent fâcher rapidement. Ouais. Les droits de leurs enfants sont brimés. Pourtant, c'est la base. T'es à l'école pour apprendre.
Ouais. Donc, au cas, je trouve ça drastique parce que je trouve qu'il y a eu d'autres façons de montrer à tes enfants que tu peux utiliser un cellulaire de façon efficace puis logique aussi. Les éduquer, ça fait partie de la maison, ça fait partie de l'école aussi. Là, tu dois être éduqué tant à la maison qu'à l'école. Là, la pochette, ça va juste contraindre les enfants. Ben, fait qu'ils vont revenir à la maison puis ils vont retourner sur leur cellulaire.
Exactement. Probablement trois fois plus pire. Tu sais, je pense qu'il y a des solutions autres qui auraient pu être appliquées. Un, ça peut être, mettons, je sais pas moi, une récré, on appelle ça des récré, nous autres, ça s'appelle comme une pause sur deux. Ça peut être ça. Tu sais, mettons que tu as une pause sans écran dans la journée pour socialiser avec ton monde puis l'autre, tu fais bien ce que tu veux. Tu sais, il y a peut-être moyen d'aller chercher des entre-deux. Puis j'aurais peut-être trouvé ça le fun aussi qu'on implique les jeunes. Je sais pas si tu as vu l'article passé la semaine passée. Si je me trompe pas, c'est au Saguenay. Puis là, je veux pas. Dans une école, il y avait la question des toilettes mixtes. C'est pas de toilette de gars, pas de toilette de filles, une toilette mixte pour tout le monde. Puis ce qu'ils ont fait, au lieu d'en faire, tu comprends, un gros problème, là, ils ont carrément mis ça dans les mains des élèves. Ils ont pris des chefs de classe, ils ont créé un genre de comité, ils ont fait voter, puis ils en sont venus à un consensus à même l'école pour, ben, gars, un étage, ça va être des toilettes mixtes, puis l'autre, ce sera des toilettes gars-filles, tu iras sur l'étage que tu veux. Pourquoi on ferait pas ce genre de pratique-là pour ce qui est des écrans? Les ados sont pas épais, là. Les ados, ils savent que les écrans, c'est pas bon pour eux autres, au même titre que nous autres, on lit dans les journaux. Ils sont au courant que ça prend une grande place dans leur vie. Pourquoi tu trouves pas des solutions au sein de ton école avec les jeunes pour qu'ils aient envie au moins de participer à ce processus-là, tu sais? Moi, dans les classes, j'ai pas de problème avec ça, je sais pas toi, là. Moi, ça me fait pas un pli, là.
Les cellulaires?
Oui, les cellulaires dans les classes, moi, je trouve ça correct qu'ils soient pas là. T'es là pour écouter ton cours, ton prof, puis
si
apprendre.
Si j'étais dictateur de mon école, là, tous les enfants auraient droit à leur cellulaire partout dans l'école, mais...
Pas en classe.
Mais les moments où l'établissement décide que les cellulaires ne doivent pas être utilisés, ça doit être respecté. Sinon, c'est premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement. Pouf! Tu t'en vas, tu sors de la classe, puis tu t'en vas faire de la copie, exemple. Puis le lendemain, tu refais la même chose. Ouh, là, t'es rendu à deux avertissements du même type. Au troisième, tu vas te faire canceller ton cellulaire pendant une semaine. Ah ouais, tu continues pas? Ben, tu viens pas à l'école, tout simplement. Tu reviendras à l'école. Puis ça sera aux parents de faire la leçon à leurs enfants de « Là, ton cellulaire, tu vas le lâcher, sinon tu seras plus
scolarisable. » Mais j'ai l'impression, parce que je suis tellement d'accord avec toi, Yann, mais j'ai le sentiment que ça peut pas se faire. T'sais, il manque de staff pas possible dans les écoles, puis pas juste de profs. Là. Mm. T'sais, avant, t'en avais là, plein. En tout cas, moi, je me souviens qu'à mon école secondaire, il y avait plein de surveillants, plein de TS. Il y avait plein de ressources pour s'occuper, justement, je vais appeler ça, de ces cas à problème-là. T'sais, des jeunes qui poussent les limites constamment. Mais j'ai l'impression qu'ils ont plus ces ressources-là. Enfin, ça te regarde. Mais là, on les a plus, ces ressources-là. Hey, il manque même de secrétaires dans les écoles au moment où on se parle.
Ouais.
Fait que je pense pas, malheureusement, qu'on peut appliquer ça de cette façon-là. Mais il y a peut-être un entre-deux qu'on aurait été capable d'aller chercher. Mmh. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire à Québec, là, à l'école de Rochebelle.
Je pense que les profs n'osent plus. Puis ils ont besoin d'établissements comme l'établissement d'Oka pour faire quelque chose de drastique. Ils vont faire en sorte que les autres, ça va les rassurer parce qu'ils auront pu écœurer les élèves de lâcher le maudit cellulaire. Mais je trouve ça un peu paresseux comme façon de faire. C'est un peu louche aussi là, pendant les périodes de pause, comme les enfants pourront pas avoir, Pascal, accès à leur cellulaire.
Bref.
Ils vont devoir Audrey, ils vont devoir socialiser. Et t'sais, qu'est-ce qu'ils vont leur donner comme cours? Ils vont leur donner des cours. Comment c'était dans le temps, les slow?
Hein?
Ouais. T'as pas vu ça passer?
Ça, je l'ai pas vu pas en tout.
Pendant les pauses, OK, ou pendant l'heure du midi, tu vas pouvoir revenir à ce que nous, on faisait quand on était jeunes.
Des slow?
Oui, on va mettre des nappes de pique-nique qui vont être mises à la disposition des jeunes qui veulent chiller le midi dehors avec leurs amis. Puis il y a des activités de danse qui seront même organisées les vendredis midi pour apprendre aux élèves à danser des slow.
Arrête donc.
Ouais, tu sais, je t'ai dit qu'il y a des gens qui sont un peu mongols, là.
Mais moi, ce que je trouve ironique dans tout ça, bon, ça, là, c'est assez particulier, là, c'est un cas à part. Mais ce que je trouve ironique, c'est qu'on va créer des... Il y a des cours, autant pour ce qui est sexualité. Tu sais, il y a un nouveau cours qui va remplacer là, la catéchèse, là. Te souviens-tu comment il s'appelle? C'est citoyenneté, voyons, cibole. 88-971-1021, ça commence à partir de cet automne. Tranquillement, pas vite, dans plusieurs écoles, on enlève la catéchèse, là. Puis ça va être des cours, carrément, je vais les appeler de citoyenneté. Puis on avait jasé avec quelqu'un cet été qui nous disait, ben si je me trompe pas, c'est Sylvain dans cause. Puis en gros, ce qu'on discutait avec les gars autour de la table le matin, c'était le fait que on va apprendre aux jeunes à bien utiliser les médias sociaux parce que ça fait partie de leur quotidien. On va apprendre aux jeunes le consentement autant sur Internet que dans la vie de tous les jours. On va parler des différentes applications, de comment mettre ça à leur avantage, mais là, t'interdis le téléphone cellulaire. Fait que je trouve qu'il y a comme un concept qui ne suit pas tant, mettons, dans cette façon de faire-là.
Je me répète, là, c'est paresseux la façon d'agir d'Oka envers leurs étudiants.
Le pire, c'est qu'eux autres, ça doit être un éclair de génie pour eux. Là.
Ben, pour eux autres, les profs, ils se libèrent. C'est l'établissement. Fait que ouais. Les profs sont super heureux.
Oui, mais ça paraît bien.
Ils se feront plus écœurer par les parents. Puis ils n'auront pas besoin d'écœurer les élèves. Les élèves ne les traiteront pas comme si les professeurs, c'était des moins que rien. C'est la solution qu'ils ont utilisée. Il y a l'histoire de danser le vendredi pour apprendre à danser
c'est
des slows.
C'est particulier.
Que je trouve ça un peu louche. Là. Mais pour le reste, je trouve que c'est paresseux. Moi, j'aime bien les professeurs qui se tiennent debout. Puis j'aime bien les parents qui tiennent pour responsables de leurs enfants, les professeurs, puis qui leur donnent cette responsabilité-là, plutôt que de dire « Ah non, c'est mon enfant qui a toujours raison. » Ça se peut que le prof se trompe, mais qui se trompe pas dans la vie? En tant que parent, je me trompe pas mal à toutes les fins de semaine. Je peux te le dire, là, moi, j'ai mes enfants du vendredi au lundi matin.
Il n'y a pas de manuel.
Puis il y a des fois où je fais des affaires qui vont contraire à ce que j'aimerais que mes enfants se souviennent de moi. Ouais. Tu sais, quand je taboute, quand ils repoussent les limites, des fois, je suis tanné.
Ben, puis c'est normal.
C'est la même affaire pour ce qui est des professeurs à la maison. Mais s'il y a quelqu'un qui vient tout le temps défaire ce que toi, tu essaies de faire, comme les parents essaient de défaire ce que l'enseignant essaie de montrer aux enfants, c'est-à-dire donner une leçon de vie, tu n'es pas capable de te contrôler, je te cancelle ton cellulaire pendant 3 jours, je le garde dans mon bureau à l'école. Puis là, les parents pètent un plomb parce qu'ils sont pas capables de rejoindre leur enfant. Tu sais, faut que les parents backent les professeurs.
Ben, faut qu'il y ait une discussion. Tu t'envoies une lettre, un courriel, on ferait ça de telle façon. Est-ce que vous signez? Est-ce que le consentement est là pour qu'on puisse agir dans... Moi, je serais complètement d'accord avec ça. Il y a Simon qui a un point très intéressant aussi par rapport à ça, les montres intelligentes. Mine de rien, ta montre est reliée à ton cellulaire aujourd'hui, fait qu'il faut-tu mettre ta montre intelligente dans cette petite pochette-là aussi, tu sais.
Ah, ça embarque dans ce qu'on disait.
Ah, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va aller, pour vrai, puis j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça du côté de Québec, parce que c'est pas avec la pochette à Québec, okay. Là. C'est vraiment juste le principe de le laisser dans ta cause.
Parfait. Puis Pascal. Audrey! Je sais pas ce qui se passe cette semaine.
Faut-tu qu'on fasse les présentations officielles?
J'étais bon la semaine passée, cette semaine, je me trompe. Mais Audrey?
Oui?
Quand nos élèves du secondaire à Oka là, vont quitter le secondaire, ils vont être rendus comment au cégep?
Qu'est-ce que tu veux dire, ils vont être rendus comment? Mais moi, dans ma tête, c'est...
Parce qu'au cégep, c'est pas mal plus lousse qu'au secondaire. Là.
Ben oui.
On va se le dire, là. T'sais, tu es supposé devenir un adolescent adulte, là, pratiquement, quand tu es rendu au cégep. Là. Ça va donner quoi comme type d'étudiant?
Ben, ça va donner des étudiants.
Il n'a pas appris à se contrôler avec son cellulaire en classe?
Non, pas totalement. T'as raison. Ben, moi, le problème, je le vois même pas là, dans le sens que je pense que tu vieillis aussi, tu prends un peu de maturité puis t'es capable de faire les pour et les contre. Moi, je le vois vraiment à la maison pour les parents, ça va être épouvantable. Ton ado va arriver à la maison puis tout ce qu'il va vouloir faire, c'est être sur son sel, il l'aura pas eu de la journée. Il n'aura pas pris ses messages. Comme nous autres, là, je veux dire, moi, si tu m'enlèves mon téléphone aujourd'hui, ouais. Je t'annonce que ce soir, j'ai bien des courriels, des messengers, tu comprends, puis des Instagram et compagnie à reprendre.
Mais toi, tu travailles.
Ben oui, ça fait partie de mon travail, mais ça pourrait pas faire partie de mon travail.
Mes gars, chez nous, je passe pour le pire dictateur de l'histoire de l'humanité quand je leur retire leur cellulaire. Tu sais, je le dis une fois, ça marche pas. Je le dis deux fois, ça marche pas. Je le dis trois fois, ça marche pas. Après ça, pouf, je prends ton cellulaire. Ouais, mais là, papa, je vais le revoir quand? Peut-être ce soir, si ça s'améliore.
Si ça se passe bien.
Puis si ça se passe pas bien, peut-être dans 10 ans. Soyons derrière les professeurs, les amis. Ils l'ont pas facile. Ils sont plus souvent que vos enfants que vous autres, soit dit en passant. Rouge Pompier, vendredi. On débute le show sur les ondes de boulevard. Je suis pris dans ton labyrinthe. Audrey Pinchot, c'est bel et bien ma co-animatrice entre 10h et 11h30. Faut pas que je me trompe.
Mais c'est correct. Je peux pas être insultée.
Quand t'as rencontré Tichum, tu l'as-tu déjà appelé le nom de ton ex maintenant?
Non. Hey, non, pour moi, ça, c'est...
Lui, l'as-tu fait?
Non.
Non?
Ah non, je l'aurais mal pris.
Mais quand ça fait 5 ans, quand ça fait 10 ans que t'es avec quelqu'un, puis du jour au lendemain, après, mettons, une grosse peine d'amour, après 2 semaines, tu rencontres quelqu'un?
Non, ça fait 2 semaines que t'es plus avec ta longue relation. Tu t'embarques pas dans une nouvelle relation. Si tu veux rester sain,
tu te ramasses pas sur Tinder.
Tinder, pour une soirée, tu fais bien ce que tu veux, là. Mais moi, la personne... Puis en même temps, je dis ça, c'est du gros jugement. Il y en a pour qui ça fonctionne. Mais moi, quand tu sautes littéralement d'une branche à l'autre sans prendre le temps pour toi, de savoir t'es qui. Des fois, tu sors d'une relation, t'as aucune idée t'es qui, toi, comme personne. Là. C'est dur de retrouver un peu ton plancher, là, puis tes repères, puis...
On partage les mêmes valeurs. Il y a de ça quelques années. Je vais changer un peu les données, là. Mais il y a quelqu'un que je connais qui a perdu sa conjointe dans un... C'est tragique, là. OK? Comme perte de sa conjointe.
Okay.
Et 2 semaines plus tard, il était rendu sur Tinder.
Oh!
Ça a passé mal auprès de ses amis, sa
famille.
Mais
ça, c'est pire encore. Ouais. Là, c'est comme,
en même temps, on dit qu'il ne faut pas juger parce qu'on ne peut pas être dans la tête de la personne. Mais...
Ah non, mais je juge amplement. Là.
Mais ça, c'est raide.
Ben là, tu viens de perdre ton... Voyons donc, c'est pas la même affaire que si tu te séparais. Là. Hein? La personne est morte.
Tu sais, t'as beau... Moi, je crois à... J'ai malheureusement aucune croyance là, par rapport à ce qui se passe après. Je ne sais pas ce qui se passe. T'sais, à mes yeux, à moi, il n'y a jamais personne qui est revenu pour me le dire. Fait que je le sais pas. Puis quand même que vous me parlez, il y en a un qui est revenu. C'est correct, mais je n'étais pas là, fait que je peux pas confirmer.
T'sais. Ça, c'est les faits.
Mais admettons que tu es ce gars-là, là, qui, après avoir perdu sa conjointe, 2 semaines plus tard, est avec une autre. Mm-hmm. Pis,
tu vas brûler en enfer.
Mettons que la Audrey, là, elle sait qu'elle est morte, mais elle décide de se promener pour voir ce qui se passe après sa mort.
C'est
là.
Sûr, je fais ça. Moi, je décède, puis mon chum est avec une autre dans 2 semaines. C'est sûr, je le hante.
C'est-tu vrai?
C'est sûr.
OK.
Voyons! C'est comme un petit manque de...
Petit chum va passer par là en sacrifice.
Ouais, voilà.
C'est 18 degrés sur Québec. Des averses pour aujourd'hui. Il se passe quelque chose sur la route, les amis. C'est pluvieux, on sait, ça glisse. Faites attention. 418-971-1021.
Il y en a qui vous diraient allumer vos lumières dans ces températures-là. C'est pas toujours automatique sur la voiture. Sur la 20 ouest précisément, à la hauteur de la route du président Kennedy, il y a un petit ralentissement. Sinon, ça se passe vraiment à la hauteur de Taniata, toujours direction ouest, évidemment. Il y a quoi que ce soit d'autre, c'est le 418-971-1021. Texto. Alors, pour vos soirées barbecue, cromignon.com.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
10h37, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est le 418-971-1021 pour nous rejoindre par texto. La beauté de travailler avec Audrey Pinchot, c'est qu'elle trouve toujours des petits trésors, des petits sujets qu'on entend très peu parler, mais qui sont hyper importants dans nos vies. Et c'est encore une fois le cas aujourd'hui où elle nous parle des paramédics communautaires. C'est le journal qui a sorti en début d'année un dossier sur les pires délais ambulanciers au Québec. Moins de 10 minutes, ce serait le délai privilégié pour l'arrivée d'une ambulance en situation urgente. Pensez juste à une crise de cœur. Quelqu'un qui fait un arrêt du cœur, 10 minutes, c'est long en sacrifice. C'est long pour vous, c'est long pour la personne qui vous voit faire une crise de cœur, puis c'est long aussi pour les ambulanciers qui disent « Oh boy, on arrive à une place, puis on ne sait pas si on va être capable de réchapper la personne. »
C'est littéralement une question de vie ou de mort. Puis tu sais, quand ce palmarès-là était sorti, nous autres, on ne faisait pas super bonne figure. À Saint-Augustin-de-Mort, 18 minutes, c'est les données qu'on avait. Fait que tu te dis « OK, c'est quand même gênant. Il est où le problème dans la région? » Puis c'est pas nécessairement un problème d'employés plus que de véhicules, de ce qu'on comprenait en début d'année, du moins. Je suis tombée sur un article de la presse dans les derniers jours où on parlait de paramédecine communautaire qui pourrait en fait peut-être être une solution à long terme, autant pour les urgences qui sont engorgées que pour justement le déplacement peut-être non nécessaire dans certains cas. Puis à Québec, mettons qu'on se ramène chez nous, en 2020, on avait implanté un genre de projet pilote pour de la paramédecine communautaire. Paramédecine communautaire, en gros, là, c'est un paramédic dans une auto qui se déplace pour aller voir si c'est urgent, c'est pas urgent, comment on gère la situation.
Faire
dans
un tri.
Totalement, faire un tri d'avance avant d'amener les gens à l'hôpital, tu sais. Ça n'a pas duré pour ce qui est de Québec. À Lévis, c'est un projet de référencement qu'on a depuis quelques mois, mais la paramédecine communautaire n'est pas encore entrée non plus. Et là, il y a David Ouellet. David Ouellet, lui, fait partie du projet de paramédecine communautaire en Montérégie pour ambulance d'Omers. C'est en vigueur depuis 2019 et lui, travaille directement avec les personnes âgées. Parce que souvent, il y a une bonne majorité des cas quand tu appelles au 911 qui sont des personnes âgées qui, bon, soit ressentent un petit mot à quelque part. Malheureusement, il y en a qui ont juste besoin de compagnie. Tu sais, Yann, je t'ai présenté un dossier l'année passée où je t'allais passer une journée en ambulance. Sur les cas qu'on a eus dans la journée, la majorité, c'était ça. Tu sais, il y a beaucoup de personnes âgées qui se sentent seules aussi. Fait que ça permet de faire le tri à ce niveau-là aussi. C'est une façon de voir si ça pourrait être une solution pour nous dans la région. David Ouellet est avec nous ce matin.
Salut, David.
Salut.
Merci de nous donner, l'entrevue ce matin. Je sais que vous êtes pas mal occupé ces temps-ci. La paramédecine paramédique communautaire, bon, c'est de la paramédecine communautaire. Vous êtes en Montérégie. Vous avez à peu près combien de patients par année qui en bénéficient?
Je n'aurais pas les chiffres exacts pour vous dire ça. Je vous dirais, en moyenne, nous, on offre un service. On est affilié, dans le fond, avec les infirmières du CLSC. L'onglet, dans le fond, du soutien à domicile. On donne un service de 7 heures à 22 heures en lien avec les horaires des infirmières avec qui on travaille. Je vous dirais, en moyenne, par jour, dépendant des secteurs où ce qu'on est, on peut faire 4 à 6, 8 appels. D'autres secteurs qui peuvent rouler encore même plus. Là, on a un secteur à proximité de notre région, nous à Longueuil, où ce que le service se donne aussi. Et je pourrais vous dire que ça peut aller peut-être jusqu'à 10, 12 patients qui sont capables de voir dans une journée. Parce que dans le fond, nous, nos appels, nos interventions, nous, au niveau communautaire, ils durent un peu plus longtemps. En moyenne, pour un ambulancier, pour une équipe de paramédics qui vont sur une intervention,
ouais.
En général, ça dure en bas de 20 minutes. Moi, je vous dirais que je pourrais être sur les lieux des fois là, jusqu'à 60 minutes, 70 minutes là, à cause de l'évaluation puis le topo que je dois faire.
Parce qu'on n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres en Montérégie, mais on a les chiffres à la grandeur du Québec. Ce serait 4200 patients par année qui bénéficieraient de la paramédecine communautaire.
Et pour l'instant, je pense qu'au Québec, les seuls qui font ça, la paramédecine communautaire, c'est nous dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu puis Longueuil. Fait que probablement que ça serait c'est juste nos chiffres à nous, c'est probablement que vous avez.
C'est quoi, mettons, votre quotidien comparé? T'sais, je veux que les gens comprennent bien ce que c'est là, être paramédic communautaire, contrairement à être paramédic en ambulance, je vais l'appeler comme ça. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ton quotidien et ce qui fait la différence?
Moi, dans le fond, c'est quand une personne va communiquer avec le 911. Nous, il y a un algorithme qui est fait au 911. Après, le monde se trouve ça souvent long. C'est pourquoi ils me posent autant de questions? C'est que nous, ça va nous donner une priorité et des codes. Selon les priorités et les codes que ça va donner, moi, je vais couvrir tous les appels qui sont de basse priorité ou ce qu'on a jugé après le questionnaire qui a été fait au niveau du 911, qu'il n'y a pas de danger de vie ou de mort pour les gens qui sont là. Et je vais faire les appels, nous, dans notre jargon, c'est des P4, des P7, dans le fond. Je vais me déplacer sur ces appels-là. Nous, pour l'instant, le service qu'on offre, c'est pour les gens de 65 ans et plus. Fait que je vais me déplacer sur une intervention où il y a quelqu'un qui a mal un genou, mal un poignet, une chute. Puis moi, rendu au domicile, j'ai des critères, des consentements à faire accepter au patient parce que le patient, il peut refuser de faire partie du projet que nous parce qu'à la base, c'est un projet de pilote. Fait qu'on est constamment en évolution. On se fait constamment surveiller. Fait que moi, je lui demande les consentements s'il veut participer. Je lui explique un peu le projet. Comme moi, mon objectif, dans le fond, c'est après mon évaluation et ma co-évaluation que j'ai faite avec l'infirmière, si on a jugé d'un commun accord que le patient est stable et qu'il n'y a pas de danger de vie ou mort pour lui, on peut lui proposer une alternative de l'urgence. Dans les meilleurs des mondes, si le patient il a un médecin de famille, souvent on va essayer de le référer à sa clinique. Si ton médecin est disponible, on va le faire voir par son médecin de famille. Sinon, on va essayer de prendre un médecin qui est à la même clinique. Sinon, on a des cliniques alternatives où ce que eux ils prennent souvent un rendez-vous, que nous, on a des plages horaires qu'on est capable de leur boucler un rendez-vous dans la journée même ou dans le délai de 24.
Puis il faut dire que
le service que nous.
C'est bon pour vous, mais c'est bon aussi pour le patient qui n'a pas à attendre après ça un genre de 8 heures à l'urgence. Puis c'est comme une bonne affaire des deux côtés. Là.
Oui, oui. Puis 8 heures, vous êtes généreuse. Là. Je vous dirais que quelqu'un qui se déplace à l'urgence pour une douleur à un poignet ou. Il peut attendre 8, 16, 12 heures avant de voir un médecin. Il ne sera pas priorisé. Moi, dans le fond, c'est quand j'arrive là, une fois que j'ai fait toute mon évaluation, mon 360, quand je fais une co-évaluation avec une infirmière, on a revalide toutes les informations, les signes vitaux que j'ai faits. Si jamais le patient tombe dans une zone grise, qu'on ne sait pas quoi faire, on peut communiquer. Nous, on a un médecin qui nous chapeaute. Mais qu'on passe avec le médecin, on lui dit que j'ai tel cas, est-ce qu'il serait plus propice à aller à l'urgence? Lui, il va être capable de nous réorienter, de nous orienter sur notre décision si jamais. On n'est pas certain.
OK. Mais dans les cas de.
Nous, on fait un 360 là, degrés. Là. Si jamais, à ton exemple, je vois pour quelqu'un que je suis une chute accidentelle, et c'est vraiment parce qu'il s'est enfargé dans les fleurs du tapis, excusez l'expression, que malgré tous les tests que j'ai faits après pour savoir si c'était pas un AVC ou un arrêt cardiaque, excusez, une syncope qui arrive près de relier un problème cardiaque. J'ai des tests à faire pour m'assurer qu'il est capable de rester chez lui. Il faut que je sois en compagnie. Puis si jamais il accepte d'être le rendez-vous, le défaut avec notre service, nous, c'est qu'on n'offrira pas de transport. Jamais dans aucun cas, moi, je vais faire de transport. Je me déplace vraiment avec un petit véhicule. C'est pas une ambulance que je vais. Puis si le patient y accepte, souvent, il faudra qu'on s'organise avec un membre de la famille. Si le patient n'a pas, pas de moyen de conduire ou s'il n'est pas apte à conduire, il faudra s'organiser avec des taxis ou des familles, un voisin, pour s'assurer qu'il se rende à son rendez-vous de façon sécuritaire.
Okay, mais dans les cas de brûlure ou dans les cas, tu sais, de foulure au poignet, est-ce que vous appliquez des bandages? Est-ce que vous pouvez faire certains traitements à ces patients-là?
Ben, pour des foulures, c'est sûr que je peux appliquer des bandes élastiques qu'on
Oui.
appelle. C'est sûr que s'il y a une déformation, je vais essayer de l'immobiliser. Comme ça doit arriver des cas là, où il y avait des fractures, puis on est capable d'être le médecin de famille s'arranger, puis passer une passe droite, puis que le patient puisse aller dessus, dans une clinique alternative pour prendre des radiographies, puis après ça, se faire céduler ses rendez-vous. Mais des gens qui ont des déformations, là, ils peuvent avoir une atteinte neuro, fait que ça va dépendre de l'évaluation. Généralement, eux, on ne compte pas le choix de les faire passer par l'urgence.
OK.
Souvent, les gens qui ont des déformations, puis que ça tombe, ça arrive pas en P4, P7, là, c'est assez rare, là. Si ça arrive qu'il échappe au niveau du 9-1, moi, quand j'arrive, souvent, je vais être capable de dire non, c'est pas une P4, c'est un peu plus urgent.
OK.
Je peux reconfigurer, dans le fond, l'intervention, l'appel, si on veut.
Fait que vous n'avez pas tout le même matériel, mettons, que dans une ambulance pour commencer les soins sur place s'il y a un problème, de ce que je comprends.
Oui, j'ai tout dans mon véhicule, là. Si j'arrive, puis tu sais, ça m'est déjà arrivé parce que ça fait 17 ans que je suis ambulancier, là, puis des fois, les gens pensent que le patient il dort. Finalement, le patient il dort pas, il est en arrêt cardiaque. Fait que, oui, si moi j'arrive puis que je constate ça, oui, je suis en mesure de faire j'ai tous les médicaments, j'ai tous les appareils pour débuter, mettons, les manœuvres de RCR en attendant que mes collègues arrivent. Là. Moi, je suis constamment en communication avec notre centre de santé, là, le 911, si vous voulez appeler ça pour vous, là. Fait que moi, j'ai un radio, je suis capable de leur dire parce que je leur donne un code, puis ils m'envoient une ambulance très rapidement. Parce que moi, dans le fond, je fais le tri, j'ai une application, j'ai un ordinateur où ce que je vois tous les appels du 911 rentrer. Puis je suis capable de savoir d'avance s'il y a des appels qui m'attendent ou s'il y a des appels qui pourraient s'en venir. Là, nous, on a beaucoup de statistiques dernièrement. Là, ça fait 3 ans qu'on fait ce projet-là. Fait que là, ça avance, ça évolue. Depuis quelques mois, là, on peut même se déplacer, nous, sur des appels qui sont jugés de priorité 3. C'est mi-urgent. Mais souvent, les répartiteurs médicaux d'urgence, quand ils prennent des notes, ils vont laisser des petites notes, nous, dans les cartes d'appel, si on peut dire. Puis des fois, avec ce qu'ils écrivent, je suis capable de voir si ça pourrait être un appel qui pourrait être pour moi ou pas.
Parce que là,
Nous, dans le fond,
faut mettre les gens en contexte qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Là, c'est 1 à 7. 1, de ce que je comprends, c'est les flashs, ça va vite sur l'autoroute, puis il y a peut-être une possibilité, genre, de décès. C'est très, très urgent. Puis 7, c'est quelque chose qui n'est pas urgent, qui peut attendre. Donc, c'est ça?
On a même une P0, on appelle. Là, les P0, c'est comme vous le dites, là, ça va être les gens en arrêt cardiaque, ceux qui sont inconscients, des chocs anaphylaxiques, toutes les urgences. Donc, comme je vous dis, ça dépendait du questionnaire qui a été répondu au 911, là, nous, ça se catégorise. Fait que oui,
OK.
P0, c'est si vous voyez une ambulance de se déplacer avec les gyrophares, les sirènes, c'est parce qu'on s'en va pour quelqu'un qui est en arrêt cardiaque ou en arrêt respiratoire. Toutes les pires cas, oui.
David Ouellette, bon là, tu fais partie de ce projet de paramédecine communautaire-là depuis bon 3 ans, tu le dis. Ça prend quoi pour qu'un projet comme ça puisse aller de l'avant? C'est important pour nous de faire le parallèle avec ce qu'on fait pas ici en ce moment, qui pourrait peut-être être utile à la région, là.
Il y a beaucoup, beaucoup de monde, là. Tu sais, moi, je suis un petit pion dans toute l'équation, là. Il y a vraiment énormément de gens qui sont autour de nous, qui ont pris cette décision-là. C'est sûrement pas aussi, pas dans tous les dossiers. Fait que c'est sûr, pour moi, de vous orienter là-dessus, c'est difficile, là. Moi, j'ai levé la main quand ils ont levé le projet, puis j'ai décidé de participer parce qu'ils nous donnent une formation supplémentaire pour pouvoir faire ça.
Ouais.
Vu que c'est un projet pilote actuellement, et éventuellement, si ça devient vraiment on devient vraiment une catégorie de paramédic officiel, probablement qu'il va y avoir des cours universitaires pour réussir à avoir le titre d'emploi, comme on a des paramédics de soins avancés, c'est la même chose, là. Mais c'est en collaboration, nous, avec le CIS de la Montérégie-Centre ici. On est comme chapeauté, dans le fond, par l'hôpital. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde au-dessus de nous, là, qui prennent des décisions, qui ont réussi à implanter ce projet-là, je vous dirais, là, au niveau de la Montérégie.
David Ouellette, on le
Une
sait,
crise de la Montérégie.
la santé coûte cher au Québec, là. Est-ce que le paramédic communautaire, ça peut sauver des coûts?
Oui, énormément. Je vais vous épargner le prix des coûts d'une ambulance, mais faire déplacer une ambulance avec 2 paramédics dedans, plus tout le matériel. T'sais, les gens d'en bas de son S5 et plus, ils reçoivent une facture, mais ils reçoivent peut-être le 1/8 ce que ça coûte pour de vrai. On dit aujourd'hui avec la RAMQ puis tous nos projets sociaux, on s'en rend pas compte, là, mais pour les gens qui ont été transportés aux États-Unis, je vous dirais que la facture est assez salée là, pour un coût de transport en ambulance. Fait qu'ici, on est chanceux au Québec, là, parce qu'il y en a plusieurs que le transport est gratuit. Fait que oui, moi, je me déplace, je suis pas dans une ambulance, je suis tout seul. Fait que c'est sûr qu'il y a des coûts vraiment diminués par rapport à un transport ambulancier.
Ça peut être une belle porte de sortie pour les paramédics en fin de carrière, la paramédecine communautaire. Tu sais, j'ai lu qu'on prolonge aussi la carrière de plusieurs paramédicaux parce que c'est très, très physique, il faut le dire. Il faut être capable de lever des patients. Vous vous trouvez dans toutes sortes de situations. Est-ce que tu es d'accord avec ça, le fait que ça peut-être faire en sorte qu'on a des gens qui resteraient plus longtemps dans le métier avec cette porte-là de sortie comme possibilité?
J'aimerais ça, là. Ça à suivre pour la suite des choses. Là. Comme vous le dites, on travaille fort. On doit lever les patients dans des endroits pas propices pour justement qu'on puisse les manipuler. Sur la paramédecine, moi, je vais faire des relevés du sol avec un appareil. Fait que, je vais être capable d'utiliser mes bras, je dois forcer un peu, mais c'est sûr que je porte de façon adéquate. Puis si je ne suis pas capable de déplacer le patient, je vais être obligé de faire venir une équipe pour me supporter. Fait que oui, ça nous fait une belle porte de sortie pour les paramédics qui sont intéressés à ce projet-là. Et d'aller de l'avant, comme je vous dis, il y a des études à faire. Par contre, c'est encore un projet pilote, là, mais la journée que ce ne sera pas un projet pilote, il va y avoir des critères pour pouvoir avoir accès à ce poste-là. Mais oui, ça nous fait une porte de sortie parce que pour l'instant, nous, si on ne s'en va pas en gestion, on est obligé de rester en arrêt de l'ambulance. On n'a pas d'autres portes de sortie comme dans d'autres corps de métier qui pourraient avoir des alternatives où on peut se ménager physiquement.
Bien, souvent, c'est rare qu'on voit les policiers à 65 ans. C'est rare qu'on voit des soldats à 65 ans. Vous avez des jobs extrêmement physiques. Les portes de sortie sont très rares. Puis comme tu le dis, ce serait une belle opportunité pour les gens qui sont en fin de carrière de s'en aller là-dedans et tout ça. En moyenne, une carrière comme ambulancier, ça peut durer combien de temps? Puis à quel âge vous pouvez commencer à prendre votre retraite?
Si je me fie à mon fonds de pension, ils me disent 65 ans. Dans le fond, quand je vais prendre ma retraite, ça va faire 43 ans que je fais de l'ambulance. Je ne sais pas si mon corps va suivre encore là. Parce que notre métier, dans le fond, il est extrêmement jeune. Là. Ça fait une quarantaine d'années peut-être que ça existe vraiment comme ambulancier. Jadis, c'était les salons funéraires qui transportaient les gens. Puis c'est
Corbillard,
go, go,
ouais.
go, vite, on va le chercher pour aller les corbillards. Fait que notre métier est jeune. On n'est pas encore reconnu comme professionnel. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour justement que ça change, mais c'est sûr qu'on est un petit peu derrière comparativement aux autres professionnels qui sont dans le milieu de l'urgence, je
Mais
vous
ça
dirais.
avance-tu, ça? Allez-vous avoir un ordre éventuellement, quelque chose?
C'est à suivre. On entend des oui-dire, mais c'est toujours très long. Fait que je voudrais pas me prononcer là puis me faire taper ses doigts parce que j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire. Fait que je ne pourrais pas vous le dire, mais je sais qu'on est sur la liste d'attente pour un jour devenir professionnel. Voyez-vous, déjà au moins, moi, dans le temps, quand j'ai commencé, c'était une attestation d'études collégiales. Ça prenait 11 mois pour devenir ambulancier, alors qu'aujourd'hui, c'est rendu un diplôme d'études collégiales. C'est 3 ans au cégep. Il y a, comme vous le voyez, depuis quelques années, on a la possibilité de devenir paramédic de soins avancés, dans le fond. C'est un cours universitaire. Eux, ils se promènent, puis ils ont plus de 32 médicaments qu'ils peuvent administrer. Ils peuvent faire complètement un arrêt cardiaque sur les lieux, pour donner tous les médicaments que nous, on n'a pas. Pour qu'on transporte à l'hôpital pour réussir à faire ça.
Ben vous
Et
êtes
comme je dis, ça va être tranquillement, pas vite, on est en train de dessiner notre arbre où est-ce qu'on va pouvoir avoir des alternatives.
Le stress, vous gérez ça comment, le stress, les ambulanciers, les ambulancières? Tantôt avec Audrey, il y a une histoire qui m'est arrivée en tête. C'était deux filles qui étaient en pause, c'était des ambulancières, ils étaient en pause au Burger King dans le secteur de Lebourgneuf, là, tu sais, sur le bord de l'autoroute de la capitale. Puis ils ont eu un call pour un arrêt cardiaque à l'autre bout de l'île d'Orléans, donc sur la pointe est de l'île d'Orléans. Les filles ont dû arrêter leur pause, bien entendu, parce qu'il y avait une urgence, mais en partant, à la distance qu'il devait faire, il savait que c'était terminé pour le patient. Ça doit être épouvantable, ça, vivre ça dans le véhicule. T'sais, on essaie d'aller le plus vite qu'on peut, le plus raisonnablement possible, mais à l'arrivée, on sait que ça va être terminé pour le patient. Vivre ça à tous les jours, ça doit être hallucinant, David.
Ça fait partie du métier, comme je vous dirais. Mais tu sais, le pire, c'est quand on arrive, c'est les familles. Et les familles, souvent, ils ont bon espoir, comme vous le dites, là, au bout de l'île de traverser le pont, ils ont peut-être 15 minutes de transport, 20 minutes de transport. C'est sûr que quand on arrive là-bas, les gens ont bon espoir, ils pensent que ça se passe comme dans les films, puis que nous, en se mettant les mains dessus, on va réanimer la personne. Mais dans un délai aussi longtemps, on le sait, nous, au final, on commence l'intervention, puis on sait déjà pas mal la conclusion de quoi ça aura de l'air. Je veux dire qu'on vient qu'on se prépare avec les années d'expérience, plus qu'on en fait. Je peux pas vous dire qu'on s'habitue à ça, mais on vient qu'on se crée une carapace, puis c'est les dangers du métier. On
Mais
est tous
avez-vous
à fleur
de
de peau à un
l'aide?
moment donné.
Avez-vous de l'aide
Pardon?
psychologique, tu sais, quand vous tombez sur
Oui.
des cas comme ça qui sont super difficiles? Est-ce que vous avez le droit de prendre le reste de votre journée? Avez-vous une aide qui vous supporte au quotidien?
Ça commence. Avant, les chocs post-traumatiques, c'était peu reconnu. Là, je dirais qu'on commence à avoir du retour là-dessus. Fait qu'on commence à avoir une ouverture puis un support. Nos superviseurs, souvent, sont formés pour seulement faire des debriefings post-gros événements comme ça. C'est propre à chaque entreprise, je vous dirais, là. Mais oui, on commence. Ils commencent un petit peu à prendre soin de nous, nous, quand ça arrive comme ça, là.
David Ouellet, un gros merci.
Mais ça fait plaisir énormément. Je vous remercie à vous aussi.
Bye
Merci,
bye.
passe
À
une
la
belle
prochaine.
journée.
David Ouellet fait partie du projet de paramédecine communautaire en Montérégie pour ambulance de Merse. La paramédecine dans ce secteur-là a commencé en 2019, puis ça
Oui.
fonctionne encore à ce jour. La question qu'on se posait ce matin, Audrey, c'est pourquoi on n'a pas ça ici?
Bien, moi, c'est une question à laquelle j'aimerais réponse éventuellement. Puis j'ai parlé à plusieurs personnes là, depuis hier qui auraient peut-être pu m'aiguiller là-dessus. Puis de ce que je comprends, c'est qu'en 2020, avec la pandémie, là, on a voulu implanter le projet pilote à Québec aussi. En fait, c'est du référencement surtout qu'on faisait finalement, là. Puis ça, bien, ils le font plus à Québec. Par contre, depuis une couple de mois, du côté de Lévis, c'est en vigueur, là. On le pratique. Pour la paramédecine communautaire, on en parle depuis des années. J'ai eu comme des petits vents que peut-être qu'à l'automne, on installerait ça éventuellement du côté de Lévis, mais pour Québec, il n'y a rien en ce moment. Puis moi, c'est vraiment le fait que si on avait la paramédecine communautaire, ça nous éviterait peut-être d'envoyer des ambulances pour rien dans des situations où les gens n'en ont pas besoin. Puis le problème, c'est pas le manque de staff, parce qu'il y en a plein de jeunes qui vont faire leur cours pour être ambulancier, ambulancière. Le problème, c'est les véhicules. Moi, j'ai ma cousine qui vient de terminer son cours, là. Puis elle a fait ses stages du côté de Lévis. Elle a tripé. Puis tu vois, c'était tellement compliqué qu'elle a fini par dire, bon, ben, regarde, moi, je retourne dans mon coin, sa côte nord. Fait que là, c'est à Sept-Îles qu'elle pratique son métier en ce moment, tu sais. Mais il y a un manque de véhicules. C'est mal fait. La première ligne est mal faite. Puis les paramédics, c'est mine de rien. Puis David le dit tantôt, avant, c'était pas grand-chose d'être ambulancier. Tu transportais la personne à l'hôpital. Mais maintenant, être paramédic, tu es littéralement le premier maillon d'une longue chaîne. Ce qui se passe dans l'ambulance, au-delà des soins qui sont donnés, le côté, je vais dire, travailleur social que les paramédics ont maintenant, parce qu'ils font énormément de santé mentale à travers tout ça, ça dirige ce qui va se passer à l'hôpital. Au niveau des soins, au niveau de comment ça va se passer avec le comportement, au niveau de mille et une choses, tu sais. Fait que ça pourrait être un projet qu'on pourrait implanter qui ferait bien du sens dans la ville de Québec, là.
Surtout si ça peut sauver des coûts, si ça peut sauver des
Des
vies, là.
vies,
Tu sais,
oui.
l'ambulance, elle, qui est portée à aller vers les cas plus critiques, on parlait tantôt des arrêts du cœur et tout ça, elle a peut-être plus de temps.
Ouais.
Tu sais, puis les couvertures aussi, je me souviens de Gaétan Barrette, dans le secteur de Lévis, il y avait quelqu'un qui avait eu une problématique de santé, qui en était malheureusement décédé, puis ça avait fait la manchette. Pourquoi? Parce que c'était un ambulancier qui avait eu un problème de santé. Il était décédé. Puis écoute, les ambulanciers qui sont arrivés sur place, ils ont vu que c'était leur collègue de travail et tout ça. Puis là, Gaétan Barrette était revenu un peu plus tard parce qu'on parlait de la couverture ambulancière dans ces secteurs-là. Tu sais, peut-être moins centre-ville, quoique Lévis s'est rendu un bon centre-ville, on va se le dire. Gaétan Barrette avait dit, pour vous dire à quel point il pouvait être arriéré dans ses connaissances, là, on commencera pas à mettre une ambulance dans tous les rangs.
Ouais.
Ça, je m'en souviens. Puis je peux te dire que les ambulanciers, l'autre bord, à Lévis, ils s'en souviennent en sacrifice de ce que Gaétan Barrette avait dit dans le temps.
Ça avait été 21 minutes d'attente,
ouais.
Le double du temps recommandé. Fait que non, non. Puis c'est frappant pour les travailleurs aussi parce qu'ils peuvent rien faire. T'sais, ils ont des secteurs où à couvrir, là, des endroits où ce qu'ils doivent être avec l'ambulance pour être capables de réagir. Mais des fois, ils manquent justement de véhicules ou l'horaire est mal fait, puis le call est bien trop loin, le temps de se rendre, ils perdent du monde. C'est épouvantable. Puis déjà qu'ils se donnent tellement. Je sais pas, je trouve que c'est mal fait.
Puis en parlant avec David Ouellet, il nous a dit que le métier d'ambulancier est encore très jeune. Ben pour toi, c'est très, très vieux parce que ça dépasse ton âge, là. Mais moi,
non, mais
je me souviens pas des corbillards qui se pointaient, là, okay, pour m'amener à l'hôpital. Mais je me souviens de deux messieurs avec des moustaches qui sont arrivés chez nous, dans le logement à ma mère.
Avec une civière.
Ils sont rentrés dans la chambre. Non, il n'y avait pas de civière dans le temps. Ils sont rentrés avec chacun leur valise. Puis, ils essayaient de prendre ma température et tout ça. Puis, ils ne m'avaient pas transporté. Mais c'était les premiers balbutiements. C'était des petites voitures. Mm-hmm. C'était des petites, petites voitures. C'était pas des grosses ambulances comme on connaît aujourd'hui. C'était les messieurs qui se promenaient pour aller chez les gens pour essayer de faire le mieux possible. Ma mère était monoparentale, tu comprends qu'elle avait pas, elle avait même pas de voiture. Elle pouvait pas m'apporter à l'hôpital. Fait que c'était les premiers balbutiements des ambulanciers. Là.
Ah, c'est fou. Ah, ben, ça a beaucoup évolué. Puis je leur souhaite éventuellement un ordre. Puis je... dans le temps. Marcher du pied l'hiver, on allait à l'école.
Allez à l'école!
Non, mais je leur souhaite, bref, que ce soit plus reconnu comme métier parce que c'est un métier qu'on connaît pas tant que ça, celui de paramédic. Puis la paramédecine communautaire pourrait nous aider dans la région. Je le crie haut et fort, encore une fois.
11 heures, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. On fait une pause, on vient.
Le Pit Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
Audrey Pinchot qui est là. Mon nom, c'est Marceau. Très content de vous accompagner jusqu'à 14h30. 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route. Est-ce qu'il y a de la visibilité partout, Audrey? Ou bien, à certains endroits, c'est un peu plus difficile.
Bien, chaque fois qu'il y a de la brume puis de la pluie comme ça, les gens nous textent. Dites au monde d'allumer leurs lumières, ce qui semble assez logique, là, mais c'est parce que c'est pas automatique dans ces autos. Il y en a qui pensent que ça l'est. Fait que faites vérification que vos lumières sont bel et bien allumées. Il y a du trafic quand même pas mal déjà sur la rive sud. 20 ouest entre la route du président Kennedy et Taniata, c'est déjà super compliqué de circuler. Direction ouest, c'est surtout à la hauteur de Taniata. Si vous êtes sur la 73, direction nord, vous allez chercher le pont Pierre-Laporte. Vraiment difficile aussi à l'entrée du pont. Et il y a quelques problèmes sur la capitale, direction ouest, hauteur Taniata. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit d'autre, vous ne vous gênez pas, ça passe par le 418-971-1021.
All right. Hey, c'est un de mes invités préférés que je reçois dans Mars au soir. Puis quand j'ai appris à connaître le doc, moi, ça fait une couple d'années, là. Mais quand je suis arrivé à la station ici, je me suis dit, un jour, il faut que je présente le doc à Audrey Pinchot.
Je t'ai
énervé
bien, Red.
Vous êtes deux personnages, soit dit en passant. Lui, c'en est un, c'en est tout un personnage. J'ai le plaisir de vous le présenter. C'est Denis Boucher, docteur en médecine expérimentale. Salut, Denis!
Hey, salut tout le monde, ça va bien?
À chaque fois, je te présente comme étant le doc qui aime les petits gros. Tout le monde me regarde avec des gros yeux.
Ben oui, pourtant, c'est ma carrière. Hein? Les dernières 15 années de ma carrière, c'est à aider les petits gros à perdre du poids. Et les gens disent que quand je parle de dodu et de petits gros, ils pensent que j'insulte les gens. Mais non, mais écoute, j'insulte pas les gens qui me font gagner ma vie. Là.
Ben là, c'est ça.
Juste un petit coup de pied dans le derrière pour les amener à prendre en main leur santé. Là.
Doc, tu as eu toute une carrière. Tu as travaillé avec des joueurs de hockey de la Ligue nationale. Tu reçois des clients, monsieur et madame tout le monde, comme moi et Audrey, qui pourraient peut-être un jour avoir accès à tes services. Parle-nous un peu de toi. Pour les gens qui entendent parler pour la première fois du Doc Boucher, là, parle-nous de ça. Tu sais, tes rencontres avec les joueurs de la Ligue nationale, qu'est-ce que tu faisais avec eux autres?
Oui, bien écoute, moi, j'étais un spécialiste. J'étais un gars qui a fait ses études baccalauréat. On a placé à l'époque en sciences d'activité physique. Après ça, je suis allé faire maîtrise, doctorat, médecine expérimentale. J'étais en haut laboratoire à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, là, au laboratoire de physiologie de l'effort.
Ouais.
C'est là que j'ai commencé à analyser des métabolismes au repos et à l'effort. Quand je suis sorti en 1999 de mon doctorat, j'ai parti une business avec mon collègue François Whittam qui était à la maîtrise, qui s'est appelé Whittam Boucher. On était les premiers au Canada à importer un laboratoire portable de physiologie de l'effort qui nous permettait de tester les athlètes sur le terrain. Les Flyers de Philadelphie nous ont contactés pour nous demander « Seriez-vous capable de tester les gars sur la glace? » On a dit « Oui ». Même si on ne savait pas si on pouvait le faire, on a eu le contrat puis on a testé les gars sur la glace. Ce qui était absolument extraordinaire.
C'est qui le joueur des Flyers de Philadelphie qui t'a marqué le plus?
Mark Richey,
qu'on a connu à Montréal.
Une bête. Vraiment, là, écoute, une condition physique exceptionnelle. Puis je raconte souvent cette anecdote-là. C'est que je faisais des tests sur la glace. Puis à un moment donné, Marc vient s'asseoir en arrière de moi. Puis il dit, Denis, je peux-tu te poser une question? Puis j'ai dit, ben oui. Alors, il me dit, écoute, j'ai 33 ans. Il dit, est-ce que tu penses, selon ce que tu vois, que je vais durer longtemps? J'ai dit, écoute, Marc, à 33 ans, tu es plus en forme que la majeure partie des jeunes de 20 ans que je viens de tester. J'ai dit, si tu ne te blesses pas, tu te nourris bien, tu prends du repos, tu vas durer longtemps. Et il a terminé sa carrière à 43 ans, je pense.
Oui, il faisait partie des exceptions de la Ligue nationale de hockey. Tu avais aussi Chris Chelios, qui avait une bonne constitution aussi. Tu avais Zdeno Chara aussi, qui était le gars le plus vieux de son équipe, mais qui s'entraînait le plus. Là.
Oui, ben, tu sais, l'âge, oui, vient jouer un rôle parce que tu as de l'usure. Mais quand tu apprends avec le temps à dealer avec tes pertes de capacité pour aller t'entraîner autrement, tu es capable de durer longtemps. Mais si à 40 ans, tu veux t'entraîner comme un jeune de 20 ans, c'est là que tu vas te détruire.
T'en vois-tu du monde, Denis, qu'à 40 ans, il abandonne, puis là, ben c'est fini l'activité physique, c'est la bedaine, c'est sont quasiment pratiquement ben, rendus en fin de vie?
Il y en a qui abandonnent à 30 ans. Là.
Ouais.
Il y en a qui ont abandonné quasiment en naissant. Là. Tu vois les jeunes aujourd'hui là, qui ont des problèmes d'obésité à 12 ans, diabète de type 2 qui se déclare à l'adolescence.
Ouais.
Écoute, c'est des drames. Là, tu commences à développer de l'athérosclérose, dans le fond, du gras dans les artères à l'adolescence. Donc, c'est des gens qui préparent leur premier infarctus entre 30 ans et 40 ans. T'sais, on est vraiment dans une société au niveau de la santé où c'est désastreux. Puis pense-y, Yannick, là, on a peut-être quoi, une centaine de spécialités médicales là, dans le domaine de la médecine et on a de plus en plus de gens malades.
C'est quoi le plus gros problème, selon toi, Doc Boucher, hein? Tu dis la génération d'aujourd'hui.
Ben écoute, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Tu as la sédentarité, tu as l'alimentation qui vient jouer un rôle. T'as le stress qui est toujours présent. Moi, ce que j'appelle le stress chronique de basse intensité, c'est-à-dire qu'il y a toujours des demandes sur l'individu qui fait que le cerveau arrête jamais. Si ton cerveau arrête jamais, ton corps arrêtera jamais. T'as tout ce qui est les pesticides, les produits chimiques dans lesquels on évolue, qui viennent jouer un rôle, qui ont un impact sur le métabolisme, le manque de sommeil. Fait que t'as plein de problèmes qui arrivent, qui imposent sur notre corps un stress métabolique important, qui fait qu'on développe un tas de maladies au fil du temps, des maladies inflammatoires. Puis là, une des conséquences de ces maladies inflammatoires-là, c'est l'obésité, qui augmente encore une fois l'inflammation systémique là, dans tout le corps, qui nous prédispose à différents types de cancers, aux maladies cardiaques, diabète, hypertension, taux de cholestérol élevé.
Il y a tellement d'affaires là-dedans, puis c'est drôle parce que j'ai comme l'impression que tout le monde est tanné des fois d'entendre parler de santé, puis de problèmes de poids, puis de stress, puis parce qu'on les connaît un peu les recettes de base, on commence à être éduqué là-dessus, mais deux, c'est comme si on ne sait jamais par où commencer non plus. Tu sais, tu parles de stress, puis là, la première chose qui m'est venue en tête, c'est comme, OK, bien, faut-tu que tout le monde ait un genre de psy? Qu'est-ce que tu fais pour te calmer? Parce que des fois, tu ne sais pas comment gérer ce stress-là non plus, tu sais.
Tu sais, c'est un peu notre faute, ça, des scientifiques, Audrey, parce que on a fait à croire aux gens que pour être en forme, il fallait s'entraîner à haute intensité, il fallait pousser la machine.
Oui.
Faut toujours en demander plus à notre corps. Mais la moitié des adultes n'aiment pas faire de l'exercice. Alors, quand tu leur parles de prendre en main leur santé, que tu as un discours alarmiste, tu les éloignes du but qui est très, très simple, qui est de bouger. Je te donne la recette idéale, là, 7000 pas par jour. Fais 7000 pas par jour. C'est l'équivalent de 5 km, puis marche-les pas en continu, là. Séparer, là. Tu vas améliorer ta santé de façon considérable, tu vas perdre du poids. Ajoute à ça une meilleure gestion de ton alimentation. Tu viens de transformer ta vie.
Ouais.
Là, je t'ai pas inventé une recette compliquée.
C'est une recette de base
très simple.
Puis est-ce que le fameux calcul mathématique de base de dépenses caloriques rentre là-dedans? Parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'on se perd à travers les différentes théories puis les différents régimes aussi, là.
Ben oui, ben en fait, moi, je suis contre tout ce qui est diète et régime. Parce que je te donne un exemple. Imagine que toi, ton métabolisme de base est à 1500 calories, que tu manges 1200 calories. Ben c'est pas compliqué. Tu vas perdre du poids dans les premières semaines, mais ton métabolisme va se mettre à ralentir. Il va aller rencontrer le 1200 calories que tu manges. Tu vas te mettre à stocker du gras. Tu vas devenir résistant à la perte de poids. Donc, moi, ma stratégie, c'est de dire à mes clients, il faut manger pour maigrir. Si ton métabolisme de base est de 1500 calories, tu ne mangeras jamais moins que 1500 calories. Et c'est là que dans ton corps, moi j'appelle ça les petits rogers, je t'explique, OK? Toutes tes cellules doivent produire de l'énergie. Pour produire de l'énergie, il faut que tu transformes l'énergie chimique qui provient des protéines lipides glucides en énergie utilisable par le corps humain. Et dans chacune de tes cellules, tu as un organelle qui s'appelle des mitochondries. Mais ça, c'est trop compliqué. Moi, j'appelle ça des petits rogers. Ils se ressemblent tous. Eux autres, ils prennent l'énergie des protéines lipides-glucides puis transforment ça en énergie utilisable par le corps humain. Et ton but, c'est de faire en sorte que tes petits rogers soient à leur maximum d'efficacité. Pour être à leur maximum d'efficacité, ça te prend un apport calorique qui correspond aux besoins de ton métabolisme. Donc, si c'est 1500 calories, pas en bas de 1500 calories. Si c'est 2000 calories, pas en bas de 2000 calories. Si c'est 3000 calories, pas en bas de 3000 calories. Après ça, tu bouges régulièrement. Tu t'épuises pas à l'entraînement. jamais, 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 ça ne sert à rien. Tu vises 7 heures de qualité de sommeil par nuit, puis tu apprends à prendre des périodes de repos de 10 ou 15 minutes par jour. C'est démontré scientifiquement que si tu prends deux périodes de 20 minutes de repos par jour, tu réduis tes hormones de stress, tu améliores l'efficacité de ton métabolisme.
On se fait du bien à la tête aussi, il faut le dire. Là. Mais comment tu fais pour savoir ton métabolisme et ta combien de calories? Hein? Parce que là, tu dis, mettons, 1500, 2000, moi, je fais comment pour savoir j'ai besoin de quoi?
Ah, ben, écoute, t'as pas le choix de parler à un gars comme moi. Là. C'est moi qui fais les mesures. Okay. C'est parce que tu vas avoir des variations. Malheureusement, t'as pas le choix. Là. C'est le service que j'offre. C'est que j'analyse les métabolismes au repos et à l'effort. Par toi-même, tu peux pas y arriver parce que c'est trop compliqué. C'est pas ton domaine d'étude.
Ouais, c'est ça,
tu vas te perdre là-dedans. Tu ne sauras pas l'apport en calories, protéines, lipides que tu as besoin parce que là, il faut que moi, je calcule ta masse grasse, ta masse maigre, puis arriver à t'établir un programme personnalisé.
T'es-tu tanné, Doc, de répondre à des questions de diète? Parce que pour certaines diètes, là, il y en a qui se sont créées pratiquement une secte. Là. Ton amie Isabelle Huot, que j'adore, qui est nutritionniste, Isabelle Huot, c'est ça?
Mm-hmm. Oui, docteur en nutrition, oui.
Elle s'est fait menacer de mort parce qu'elle dénonçait certains régimes. Là. Puis je me suis dit, attends un peu, là, quand t'es rendu à être une participante à un régime, puis de menacer Isabelle Huot de la tuer...
c'est pas intense.
Mais entre les deux oreilles, ça va pas, Doc. T'es-tu tanné, toi, des fameuses sectes de régime? Là? C'est, pourquoi que ça existe? Puis pourquoi les gens embarquent là-dedans? Puis pourquoi ça devient aussi radical comme réaction?
Bien, tu sais, Yannick, c'est pas compliqué. C'est que si tu veux avoir des résultats durables, il faut que tu changes ton mode de réflexion, il faut que tu changes tes habitudes de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont des suiveux, qui ont besoin de croyances, qui ont besoin d'une religion, qui ont besoin d'avoir l'impression de faire partie d'un groupe et de trouver une approche miracle parce qu'ils n'auront pas à faire d'efforts.
Non, mais des fois, c'est juste le désespoir, c'est ça.
Ben, ou le désespoir, est-ce que c'est la lâcheté? Bien souvent, c'est ça. Donc, tu sais, il y a bien des raisons. Mais la problématique là-dedans, c'est que les gens finissent tellement par avoir cette croyance, cette nouvelle religion, que quand tu attaques ce qu'ils font, même avec des données scientifiques, pour leur dire hey, « c'est totalement con ce que tu fais puis ça ne durera pas
»,
ils virent totalement fous. Mm. Écoute, moi, j'ai une clinique de Montréal, quand j'ai dit que la diète cétogène, c'était l'équivalent de la diète de la mort, bien, j'ai une clinique de Montréal où j'ai reçu des insultes, là, puis j'ai été obligé d'appeler, puis j'ai dit hey, « si vous ne calmez pas le pompon, je mets la police là-dedans. Là. »
Mais voyons donc, toi.
Oui, puis c'est une clinique médicale. Là.
Qu'est-ce que ça peut créer comme problème, le régime cétogène?
Ben écoute, t'as un déséquilibre total au niveau des protéines, lipides, glucides. Tu manges du gras à journée longue, t'as presque pas de glucides. Donc, ce qui arrive, c'est que tu peux développer des troubles cognitifs, des troubles d'humeur, des troubles de santé, des problèmes au niveau du ton foie. Un déséquilibre, il n'y a rien de sain là-dedans, là. Ouais. Ton corps a besoin d'une quantité de protéines, lipides, glucides équilibrées tout au long de la journée. Et ce que je répète tout le temps, c'est de dire, écoute, je comprends pas. Moi, je parle d'équilibre de vie, mais avec l'équilibre de vie, tu obtiens des résultats extraordinaires sans souffrir. Et toi, tu vas te chercher une diète de merde où tu vas souffrir, où tu vas faire des conneries qui n'ont pas de sens. Écoute, choisis, tu sais, je laisse les gens choisir, là, mais mon discours, moi, c'est simplement, c'est la voie du milieu, l'équilibre de vie.
Je t'ai demandé tantôt, Doc Boucher, à savoir comment on faisait pour savoir combien de calories, tu sais, il nous fallait par jour, puis il y a des gens qui, cette approche-là, leur parle pas du tout, puis il y a une mode dans la dernière année que j'ai vue personnellement sur les réseaux sociaux à travers les nutritionnistes, qui est l'alimentation intuitive. Tu penses quoi de ça? Parce qu'il y en a qui disent, ben si tu te fies à quand t'as faim, tu vas manger ce que ton corps a besoin.
Non, c'est pas vrai.
Non?
C'est pas... Sauf que l'approche pour certaines personnes fonctionne bien, là.
Parce que moi, je mangerais des chips et du chocolat, là. Moi, mon intuition, elle serait pas bonne, là.
Mais tu sais, ça, tu vas le faire avec une nutritionniste, là, quelqu'un qui a une formation universitaire là-dedans, là, ce qui va être un petit peu plus intelligent que le reste. Mais c'est pas vrai que l'intuition fonctionne, là, pour la plupart des gens. Moi, je te dirais que 90% des gens ne sont pas très bien connectés avec ce qui se passe dans leur estomac.
Non.
Donc, c'est pour ça que moi, les gens vont remplir un journal alimentaire avec une stratégie de comprendre la relation qui existe entre ce qu'ils mangent et les besoins de leur métabolisme. Mon approche ne convient pas à tout le monde. Tu sais, tu comprends que j'ai une petite niche très particulière dans mon approche. J'en suis très conscient. C'est un mode de fonctionnement qui est très cartésien, qui ne convient pas à tout le monde. Donc, là-dedans, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il faut que vous trouviez l'approche qui vous convient. Mais quand vous faites une approche puis elle ne fonctionne pas, arrêtez de vous acharner, là. C'est que vous n'êtes pas assez précis, tout simplement, par rapport à ce que vous faites.
Dernière question, Doc, parce qu'on est un peu limité par le temps. C'est la raison pour laquelle on aime bien se jaser dans Marceau soir, parce qu'on a une bonne plage d'une heure à surfer. Que penses-tu des gens qui se privent de manger pendant 18 heures ou pendant 24 heures ou pendant 36 heures juste pour maigrir? Est-ce que, de un, est-ce que ça fonctionne? Puis de deux, est-ce que le cerveau se souvient? Et si le cerveau se souvient, est-ce qu'il ne serait pas tenté, le cerveau, de faire des réserves quand tu fais ce genre de privation de nourriture-là?
Ben oui, écoute, il y a des experts du jeûne là, sur le marché, là, puis moi, il y en a un qui a essayé de me convaincre que je devais en faire un. Je lui ai dit, écoute, tu ne me feras jamais jeûner. Jamais de ma vie, à moins qu'il arrive à une guerre nucléaire et qu'il n'y ait plus de bouffe, là, je jeûnerai à ce moment-là. Mais d'ici là, jamais. Pourquoi? Parce qu'un, j'ai beaucoup de plaisir à manger. Deux, je mange de façon équilibrée. 60 ans, j'ai un poids santé extraordinaire, puis j'ai une musculature extraordinaire pour ne pas perdre de 60 ans. Alors, j'irai pas faire des conneries de me priver de nourriture pendant 24 heures.
Mais ça,
si vous voulez le faire, organisez-vous avec.
Est-ce que le cerveau se souvient? Quand tu l'as privé de nourriture, il s'en souvient-tu? Est-ce qu'il se dit, je viens de perdre 15 livres, mais mon corps m'a pas nourri pendant quoi? 3 jours à peu près. Fait que là, est-ce que je vais ingurgiter la prochaine fois? Je vais essayer de me faire des réserves.
Ben, tu sais, ce qui va arriver, c'est que les gens crevent tellement de faim et après ça, qu'ils se remettent à manger en quantité industrielle. Ouais. Ce qui fait que ton métabolisme il a tellement ralenti pendant les 3 jours, les 2, le 1, le 2, le 3, le 4, le 365 jours que tu as jeûné, ben, qu'il va faire des réserves de gras rapidement. Donc, tu sais, c'est que tu gères un déséquilibre par un autre. Alors, moi, en tout cas, j'en reviens à ma méthode qui est l'équilibre de vie. Si ça ne te convient pas, tu viens pas me voir. Puis tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, puis vis avec les conséquences.
L'équilibre de vie, telle est ta devise. Si ça ne te convient pas, viens pas chez nous.
Exactement.
Hey, mais Doc Boucher, on n'aura pas le choix de s'en jaser parce que là, moi, j'ai mis une question sur ma feuille que je me note. Là, je trouve ça super intéressant.
Toujours un plaisir.
C'est quand vous voulez.
C'est toujours un plaisir, mon ami. Puis pour te rejoindre, on peut te suivre sur les réseaux sociaux sur Denis Boucher. Sinon, sur le web, denisboucher.com.
Denisboucher.com, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, vous allez me trouver partout.
Oh. On les aime-tu, petit gros?
Ah, je les adore. Hey, je vous aime, gros.
Salut.
C'est de la bonne business.
Ah, Denis Boucher, quel phénomène. Un gars que j'ai le plaisir de recevoir une fois de temps en temps dans Marceau soir. Fait toujours réagir.
Mais le pire, c'est que chaque fois que je l'entends, je suis morte de rire dans mon char. Il est coloré, là. Mais en même temps, ce sont les faits. Ouais. Tu sais, quand tu vas consulter, c'est parce que probablement que t'en as un surplus de poids, tu sais. Ouais. Puis tu veux l'améliorer, ce qui est tout à ton honneur.
Mais lui, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bon, je veux pas le vieillir, mais ça fait quasiment 45 ans, mettons, qu'il vérifie ses affaires, qui étudie ses affaires pour être sûr et certain que s'il te prend, ben, la méthode qu'il va te donner, ça va être la bonne. Mmh. Il va te recevoir dans son bureau ou il va faire un zoom avec toi puis il va tout calculer tes besoins.
S'il n'est pas ta personne, il va te le dire.
Exact. Puis il ne triche pas avec. Parce que toi, tu vas t'apercevoir, ce que j'ai reçu comme témoignage, c'est que il y a des gens que ça fonctionne, la technique, mais ils se disent « Ouais, mais là, je vais essayer de changer les paramètres de ce que le Doc Boucher m'a dit de faire. »
Ça ne marchera plus.
Fait que là, la personne va avoir l'impression qu'elle va perdre encore plus de poids. Ben, ça se peut que Denis Boucher dise « Si tu fais pas ce que je te dis, moi, mon objectif, c'est de te faire perdre du poids et avoir un équilibre de vie, que ce soit mental et physique. Si tu fais pas ce que je te dis, tu t'en vas. »
Sors.
Tu t'en vas.
Moi, j'aime le monde de même, le direct, j'aime ça.
Ouais, droit au but. Hey, on se laisse là-dessus, nous autres. Je t'assure de passer une maudite belle journée. On t'écoute dans le retour tantôt. Puis moi, ben, j'aurai le plaisir de retrouver Pascal CV dans les prochaines minutes. Merci d'avoir été là. Si vous avez quoi que ce soit à nous transmettre comme information, quand on n'est pas en onde sur nos messengers respectifs, on est toujours disponible, les amis. Donc, si vous avez des idées d'invités que vous aimeriez entendre ou, je sais pas, un peu de nostalgie, toi, des spécialistes que vous entendiez dans les années 90, début 2000, ça vous tente de les réentendre dans notre émission, ben vous pouvez nous faire part de vos idées sans aucun problème. On se laisse avec Jean Leloup.
Salut, là.
Voyageur sur Boulevard.